Mais on est comme ça.
8 heures. Enfin, c'est l'heure. Vous êtes conviés
dans le bureau, des commissaires.
Des commissaires.
Salut Alain.
Comment allez-vous?
Silver Fox, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ouais, bien.
Très bien.
Pendant qu'on parlait de Liney, là.
Si.
On sent l'enthousiasme.
S'il est capable de revenir au jeu ce soir, est-ce que pour vous, c'est une obligation, il doit réintégrer l'alignement ou il n'y a rien qui presse? Alain.
Moi, honnêtement, il n'y a rien qui presse. Écoutez, le problème de l'aîné, c'est, à mon avis, là, le Canadien est un club qui mise sur... c'est un club rapide. C'est la vitesse d'exécution. Et lui, il est lent, il ralentit tout le monde. Fait que, tu sais, moi, à mon avis, s'il est prêt à jouer, tant mieux, mais ça, est-ce que ça presse de le ramener dans l'alignement? Non. Mais à mon avis, ils vont le mettre dans l'alignement parce que, tu sais, ça reste qu'en avantage numérique sur la deuxième unité. Il peut toujours marquer un but, puis c'est toujours... Mais sinon, c'est pas... il est pas essentiel au succès du Canadien, lui, là.
Éventuellement, il va scorer, là, parce qu'on se dit, ah oui, il est essentiel sur le jeu de puissance, mais il fait 5 games, mais il a joué 5 games, mais il n'y a rien. Zéro. Le problème, c'est que tu sors qui pour faire entrer Liney? C'est ça qui est le problème. Là. Est-ce qu'on sort? Ben, c'est Beck, ça
Owen
va être
Beck,
facile,
Gilbert,
facile à sortir. Oui, mais est-ce que tu vas rentrer Doc à la place si Doc est prêt?
Ben oui. Moi, c'est sûr que si tu donnes le choix entre les deux, je rentrerai Dak avant l'année. Mais je pense que si les deux sont prêts, les deux jouent.
Une autre question pour vous autres, les Snorros, là. Est-ce que tu modifies les trios ou tu laisses les trios comme ils étaient? Tu laisses Anderson avec Evans et Gallagher? Et mettons, tu mets Bolduc avec Doc et Liney?
Ça, on l'a vu, ce combinaison-là.
Je
ça marche
sais.
Pas.
Bon, mais ça fonctionne je pas. Sais que ça marche pas, mais ça marche pas plus avec les trois autres.
Oui,
les
mais l'autre trio fonctionne. Gallagher avec Bolduc et Dak, ça fonctionne.
C'est vrai.
Mais t'effaces complètement ton quatrième trio.
Mais je m'en sac de mon quatrième trio, Gilbert.
Faut pas que tu t'en sac tant que ça.
Non, mais si tu me donnes le choix d'effacer mon troisième trio ou mon quatrième trio, moi, effacer le quatrième. Parce que c'est un trio qui est volonté plus défensive, tandis que l'autre, j'ai de l'attaque.
Volonté plus défensive avec Patrick Liney. Volonté de mettre de l'énergie dans le game avec Patrick Liney.
Mais oui, quatrième trio. Mais
oui, Simonac, tout aussi bien arrosé un feu. Quoi?
Non, mais tu sais, je vais vous en donner un, moi, qui je peux pas dire. Autant je l'ai aimé au cœur d'entraînement, autant je trouve. Tu sais, Kapanen n'a pas un début de saison ben extraordinaire non plus, là. C'est pas. C'est un autre que tu peux sortir du line-up, là.
Ouais, il y a des flashs.
Moi, les deux derniers matchs, c'est loin d'être le pire. Moi, je trouve que. Avec Demidov à 5 contre 5, moi, je trouve que c'est bien correct. Tu sais, j'en vois pas un autre, à part peut-être Veleno, qui. Je pense que tu peux le placer là aussi, puis il peut faire un travail correct aussi. Mais Kapanen demeure un jeune, puis présentement, il y a une petite connexion avec Demidov.
Ouais, puis tu sais, on le voit, là, c'est une équipe qui a des aspirations cette année, puis on espère faire les séries, mais il manque encore des morceaux de puzzle. Puis tu sais, on compose avec ça, puis on n'aura pas le choix, puis à l'attaque, malheureusement.
Tu vas avoir des blessés.
Ça, tout le monde en a des blessés.
Ouais, puis là, la profondeur est testée. Là. Déjà là, tu sais, sans Goulin, sans Dak au centre, t'as deux morceaux quand même importants des positions clés. Là. Ton joueur de centre numéro 2 ou 3 et t'as un de tes défenseurs top 4 qui sont pas là. Comment tu peux remplacer ces gars-là? C'est intéressant de voir. Là. Le match de ce soir, oui, mais après aussi, on les aura peut-être pas là, pour. Surtout Goulet, on le sait, là, ne jouera pas dans le voyage dans l'Ouest.
Moi, ce que je me demande, les gars, c'est que, tu sais, Veleno, on sort Veleno, on met Liney. Parce que il y a le potentiel d'être bon sur le powerplay, de scorer sur le powerplay, tout ça. Mais à 5 contre 5, c'est fuck all, on s'entend zéro. Mettons qu'il n'y a pas de powerplay ou il y a un powerplay dans la game, là. Moi, je trouve que tu brimes un trio. T'sais, j'aime autant dans ce cas-là voir un Joey Veleno sur une quatrième ligne avec Anderson. Puis, tu comprends?
Je suis d'accord avec toi. Puis à la limite, tu garderas Caulfield sur la glace 2 minutes pendant le powerplay. C'est tout. Là. C'est bon. Suzuki joue 2 minutes pendant le powerplay. Caulfield est capable de jouer 2 minutes. Tu pourrais lui mettre d'avoir l'aîné dans le line-up.
Tu sais, je comprends que c'est un spécialiste du powerplay, mais Simonac, s'il n'y a pas de powerplay ou s'il y a 2 powerplays dans toute la game, les gars, là, on va se priver d'avoir un joueur qui est capable de jouer régulier, qui est capable d'amener quelque chose, l'énergie et tout ça. Pour avoir un gars.
Mais tu sais, en ce moment, on tient ce genre de discours-là parce qu'il n'a pas encore marqué. Mais si Liney avait déjà réussi à marquer depuis le début de la saison, on verrait son utilité et on serait content qu'il soit dans la formation. On est dans les si et dans l'hypothétique, mais ça reste que c'est la réalité.
Il y a eu des chances, il passe dans le vide, il manque le net. Tu comprends?
Je suis d'accord, Gilbert, mais tu le sais comme moi que c'est un joueur qui peut faire la différence en un seul lancer frappé.
C'est pour ça qu'on va toujours prioriser un joueur comme ça.
Mais là, on partira pas en peur sur l'année pendant une demi-heure. J'ai plein de sujets pour vous autres. Ah, je veux vous entendre sur le début de saison en montagne russe pour Sam Montembeau. J'ai posé la question aux gens ce matin. Hey, c'est le temps de donner une vraie chance à Dobesch au poste de numéro 1. 47% oui, 53% non. On approche le 2000 votes. Là. C'est quand même un échantillon respectable. Les gars, Montembeau en fin de semaine, faut l'avouer, ça n'a pas été facile pour Sam.
Non, mais moi, je pense que c'est un peu de bonheur pour commencer à mettre... Souvenez-vous, l'an dernier, quand Dobesch est arrivé dans le temps des fêtes, on se posait la même question. Mm-hmm. Ah, Dobesch est extraordinaire.
Il est 5 en ligne.
Ben oui, c'est le niveau numéro 1. Mais c'est finalement, c'est Montembeau à la fin qui a fait partie des éléments qui ont permis aux Canadiens de faire les séries. Fait que moi, je pense que tu sais, faut respirer là un peu, on se garde, on se calme et puis Montembeau, à mon avis là...
qui est le filet ce soir qui est le filet ce soir, Alain?
Moi, je donnerai à Dobesch ce soir, honnêtement, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je me pose des questions sur Montembeau. C'est simplement que on avait dit en début de saison, tu sais, Montembeau 55-60 matchs, c'est la charge de travail qu'on veut y donner. Moi, je donnerais le filet à Dobesch ce soir là. Montembeau a joué samedi, mais tu sais, peut-être qu'ils vont vouloir lui redonner contre les Sabres parce que là, pour qu'il se rachète, mais tu sais, t'as une grosse semaine qui s'en vient là.
Exact.
Moi, je donnerais ça à Dobesch.
Moi, je vois aucun problème à ce que les deux gardiens se partagent la tâche cette semaine. Il y a du voyagement. Mm-hmm. T'as 4 matchs dans une fenêtre de 6 jours, puis rajoute le match de samedi, ben c'est 5 matchs en 8. Et c'est quoi le problème de jouer les deux gardiens de but? Il y a zéro problème là, là. Puis c'est pas parce que tu veux jouer dans la tête de ton numéro 1. Non, il joue pas très bien. Ben parfois, aujourd'hui, avec Dobesch. Puis Monty, il jouera mercredi. Là. C'est pas la fin du monde. Moi aussi, je suis d'accord avec Alain. C'est tôt un peu. C'est vrai que Sam connaît pas un grand départ. Il va se ressaisir. Présentement, Dobesch joue du bon hockey. Il est très bon depuis le début du camp. Ouais. Il est hot. Ben pourquoi pas lui donner un départ de plus maintenant, aujourd'hui? Je vois zéro problème là.
Là, je sais que c'est peut-être pas dans tes questions, désolé, mais ce soir, vu qu'on s'en va sur la route pour 4 games, Alain, est-ce que tu considères que ce match-là, c'est un must-win?
Non, bon, ce soir, c'est sûr. Puis, tu sais, je regarde les Sables, ça semble s'être replacé un peu à Buffalo. Mais tu t'en vas, tu sais, Vancouver, j'ai l'air à jouer du bon hockey. Les Oilers, c'est pas facile.
Le Kraken.
Calgary, c'est ça reste que c'est les Flames, c'est quand même pas une puissance, mais tu joues à Calgary. Puis le Kraken a un bon début de saison aussi. C'est pas un voyage facile que le Canadien va faire. Alors, moi, je pense ce soir, tu sais, tu peux pas partir sur 2 défaites sur ce voyage-là. Il faut que tu gagnes à soir contre Buffalo.
Ouais, on est tous à la même place que c'est un match très important. En fait, je dis tous à la même place. On est quasiment tous à la même place que c'est un match très important.
4 sur 5, on est à la même place. L'autre, sauf Marcotte. Là,
je comprends. Là, vous avez fait votre renommée avec votre chandail Biggest Game of the Year. Vous avez surfé là-dessus toute l'année passée.
Toute l'année passée.
On peut se calmer les nerfs. Là. On est tout de même juste au mois d'octobre. Là, un lundi contre Buffalo. Sérieux, là.
Non, là, je recommencerai pas encore avec une explication. Là, Anthony, là, tu t'en vas sur la route pour 4 games. Écoute, le Silver Fox, tu as dit la même chose que moi. Là.
C'est vrai que
tu t'en vas sur
expérience.
La route pour 4 games. Il faut que tu partes sur une belle note. Tu peux pas partir avec 2 défaites. C'est ce que Silver Fox a dit. Ouais. Écoute!
Mais tu vois, écoute le Silver Fox. Puis là, Alain, moi, je vais te faire écouter Tony. Plus tôt à l'émission, on a émis certaines inquiétudes à l'endroit de Caden Goulet parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer à l'autruche puis il faut adresser l'éléphant dans la pièce. Caden Goulet, c'est inquiétant.
Mais là, à un moment donné, il est fait en porcelaine ou pas? Là? C'est quoi, là? Il est toujours blessé. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Sérieusement, là, il est très important pour le Canadien Goulet. On est tous d'accord. C'est unanime. Mais il est toujours blessé. À quel point on peut se fier sur un gars de même à long terme?
Est-ce qu'on peut se fier à long terme? Est-ce qu'on peut bâtir l'équipe du Canadien de Montréal autour de Caden Goulet? Parce que on dirait que ça nous pend tout le temps au bout du nez une fameuse blessure au défenseur, Alain.
Écoute, je suis un peu d'accord avec Anthony parce que effectivement, tu regardes depuis le début de sa carrière, puis honnêtement, je me demande, il s'est blessé où et comment la semaine passée? On l'a vu à la ligne bleue, là, il a eu de la misère à se relever, puis finalement, il a quitté le match, puis on l'a jamais revu. Mais, tu sais, est-ce qu'il avait été frappé? Y a-t-il eu quelque chose qui est arrivé? On a regardé des... Et c'est vrai qu'à un moment donné, puis, tu sais, on peut commencer à se poser la question pour Kirby Dach aussi, là. Tu sais, la blessure est peut-être pas aussi sérieuse que dans le cas de Goulet. On parle que c'est au jour le jour. mais ça en a un autre qui est toujours blessé là, depuis quelques années. Et Goulet, c'est vrai qu'il semble être un joueur fragile. Puis tu sais, il ne faut pas se compter d'histoire. Le Canadien est une moins bonne équipe avec Jack High et Struble, les deux dans l'alignement
ben oui,
à la place
ça, c'est
de Goulet.
Ça, ben oui, ça, on est d'accord. C'est évident. Ça, on est d'accord.
Alors, tu sais, là, je dis pas que sa carrière est en péril, mais c'est vrai qu'il est souvent blessé. Il a de l'air, tu sais, on en connaît Gilbert, là, on travaille avec Benoît Brunet, nous autres, là.
Ouais.
Tu sais, ça en est un, ça, qui a passé ça, une bonne partie de sa carrière sur la liste des blessés.
Ouais. Tu sais, puis qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'on dit 4 à 6 semaines, puis on parle d'une blessure à l'aine.
Ça, c'est nous qui le présume, ça.
Ben,
ça n'a pas été avancé, une blessure à l'aine.
OK, d'abord, c'est pire. D'abord, c'est son genou. C'est encore pire. C'est un ligament au genou, c'est 4 à 6 semaines. Ouais. Là. Pas mieux, là.
Non, mais je faisais juste préciser que c'est pas une information officielle.
T'sais, parce que, tu sais, la façon que c'est arrivé, ça peut être anodin. Si t'as blessé à l'aine, juste te redire ça à glace pour prendre une mise en échec, là, tu te redis, ça donne un coup, là. C'est peut-être ça qui est arrivé, je ne sais pas, là. Mais moi, ce qui m'inquiète, les gars, puis je suis loin d'être médecin, comme j'ai dit tout à l'heure, il me manque à peu près 50 ans de scolarité, là. Et il faut. C'est que normalement une blessure à l'aine c'est une dizaine de jours, t'es correct et tout ça. J'espère qu'il n'y a pas une déchirure, parce que si c'est une déchirure, ben là on tombe dans les Claude Lemieux, puis il y en a d'autres qui ont eu ça aussi là, tu sais, puis là ça peut être pas mal plus long là.
Ouais.
Ben moi j'ai une question pour toi Gilbert, t'as été athlète là.
Je suis encore.
Oui, je sais, absolument. Je devrais pas parler au passé quand je te parle.
Non.
Mais Gilbert, comment ça se fait? Puis tantôt, l'exemple de Benoît Brunet, c'est bon, il était souvent blessé, ou Benoît aussi, mais comment ça se fait qu'il y a des gars qui ont tendance à se blesser plus souvent? Puis Goulet, Colin, il s'est coupé, ça aurait pas arrivé à n'importe qui, une blessure totalement loufoque. Comment ça se fait qu'il y a des gars qui sont plus proches de se blesser?
Je vais te donner un exemple. OK? Je vais te donner un exemple. Doug Jarvis, il a été le Iron Man du Canadien de Montréal.
Ouais.
Doug Jarvis, d'après moi, dans sa carrière au complet, il doit avoir 3 mises en échec.
OK, ouais, c'est con.
Alain, tu sais, corrige-moi si je me trompe, là.
T'sais, non, mais tu sais, en même temps, Gilbert, c'était pas un gars qui, c'était pas le gars qui avait le plus gros gabarit, Doug Jarvis.
Ben non, il était tout petit, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai été blessé aux épaules, tout ça, mais je frappais tout le temps, frappais, tu frappes, tu te fais frapper, tu te fais. À un moment donné, c'est normal que ça casse en quelque part, là. Mm. Tu sais, si tu vas pas dans le trafic, puis il se passe rien, je dis pas que tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas blessés, comme Suzuki est pas blessé, c'est un Iron Man, puis il va dans le trafic, puis il frappe et tout ça. Et tu sais, c'est des fois c'est une question de malchance. C'est Goulet, il se fait blesser, il se fait couper la jambe là. Il frappe le gars dans le coin, son patin là, puis il coupe sa jambe.
Il se coupe lui-même.
C'est une bad luck.
Ouais.
C'est une bad luck.
Mais Kirby Doc, on peut pas dire que c'est le gars qui est le plus impliqué physiquement, puis il se blesse tout le temps lui aussi.
Ouais, mais
c'est spécial.
Ça dépend du gabarit. C'est un grand gars, Kirby Doc, il a des grandes jambes, des grands cannes. Peut-être que c'est plus propice à avoir des blessures
au genou. Kirby Doc, là, c'est blessure au genou. Il avait été blessé au poignet avant à Chicago. Blessure à l'épaule, si ma mémoire m'est fidèle. Il y a eu des blessures un peu partout. Là.
C'est blessé au mondial junior aussi.
Ouais, en tout cas, c'est l'histoire de sa carrière, les blessures de Kirby Doc. Non, c'est pas c'est quoi la nature vraiment de sa blessure. C'est peut-être la maintenance aussi. Mm-hmm. Lui qui se remet d'une blessure au genou, on va être prudent et pas enchaîner trop de matchs. On avait vu ça dans le camp d'entraînement. Là, c'est une séquence qui est quand même qu'on enchaîne beaucoup de matchs. C'est peut-être juste la maintenance, de la prudence. Il n'y en a pas moins qui est jamais sa glace. Alors, c'est dur de se faire des plans à long terme avec des gars comme Dak puis des gars comme Goulet. T'sais, surtout Goulet, je pense qu'il est établi maintenant dans un top 4 de la Ligue nationale. Mais il est souvent blessé, puis il change ton club quand il est pas là.
Ben puis oui, en plus, tu parlais de tantôt un peu plus tôt à l'émission, Goulet et Reinbacher, deux piliers à venir du Canadien de Montréal. Un est déjà là, l'autre, on espère qu'il y parvienne un jour.
Reinbacher n'a pas encore commencé à pratiquer avec ses coéquipiers.
Ça,
on disait un
bon
mois,
signe.
Il est pas encore sur la... il patine, mais il s'entraîne pas avec ses coéquipiers encore.
Pas bon signe. Les gars, on va aller à la pause. De l'autre côté de la pause, événement très marquant. Peut-être l'élément déclencheur des décennies difficiles du Canadien de Montréal qui a eu lieu pratiquement jour pour jour.
Ah!
Il y a 30 ans! Je vais vous entendre là-dessus au retour. Vous êtes dans le bureau des commissaires avec Alain Crête dans le club du matin. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, Jacques Demers et Serge Chavard étaient congédiés du Canadien de Montréal, qui, à mon sens, a été un peu le début de la fin. Là. Par la suite, ça a été des années beaucoup plus difficiles avec le Canadien de Montréal. Je me trompe pas, les gars, vous avez plus d'expérience que moi, mais c'est vraiment ma lecture de la situation. Là.
Non, effectivement, tu as raison. C'était, je pense qu'à partir de ça, après ça, on sait ce qui est arrivé. Tu as eu l'affaire Patrick Roy quelques semaines plus tard, au début du mois de décembre.
Mm-hmm.
Et ça a été probablement le début de ce qu'on a connu au cours des dernières années. Mais le Canadien avait mal commencé. Puis, écoutez, je peux vous raconter un peu Le Canadien avait perdu le samedi soir contre les Devils de New Jersey.
T'es 0-5 ou je sais pas trop.
0-5, oui. Ouais. Et Jacques Demers avait donné congé aux joueurs le lendemain. Et Ronald Coré était descendu dans le vestiaire et avait dit à Jacques qu'il n'y a pas de congé, les gars vont pratiquer, ils n'ont pas de victoire cette année. C'est... Serge Chavard il avait dit « Mêle-toi de tes affaires, c'est lui qui coach, c'est pas toi ». Et ça a dégénéré, on sait ce qui est arrivé après. Le lundi, ils ont été congédiés. Et moi, je me souviendrai toujours. Ça, c'est l'année que je suis arrivé à Montréal. Ça.
Il avait joué un mercredi soir à New York Islanders, je pense. Puis c'est l'AP qui avait coaché, je pense.
Ouais,
je
me trompe pas, c'est ça. Il jouait le vendredi, à mon avis. Je pense que c'était à Long Island. Et
ouais,
Guy Charron était un des adjoints. Écoute, j'étais à la station CKC à l'époque, quand je suis arrivé à Montréal. Et Mario Tremblay travaillait avec Pierre Trudel, avait la ligne ouverte. Et il travaillait à TQS également, Mario. Et le vendredi soir, c'est TQS qui présentait le match. Et je pense que c'était contre les Islanders. Et je me souviens tout le temps, Michel Tremblay, le directeur, avait dit à Mario, fais une entrevue avec Guy Charron, demande-lui si le job d'entraîneur-chef du Canadien, ça l'intéresse. Mais Mario savait très bien que c'est lui qui allait être le coach canadien.
Lui, il avait déjà sa confirmation, là, c'est vrai.
Oui, parce que la nouvelle a été annoncée le lendemain, le samedi.
Ça a l'air qu'il était fou comme la merde, sa press box, dans ces années-là. Là, ça a l'air que c'était épouvantable. Il savait, sans l'annoncer, là, il était plein plein d'énergie, tout ça.
Et moi, on m'a raconté, je ne sais pas si il y avait un match le soir, et Patrick Roy, son téléphone sonne à la maison, il y a un de ses chums qui dit regarde, ouvre la télé, t'en croiras pas tes yeux et tes oreilles. Il ouvre la télé, puis là, il apprend que Jean Wood, Steve Schott, puis tout le monde. Il avait dit je suis retourné prendre une douche d'eau froide pour être bien certain que je rêvais pas.
Ah ouais. Tabarnouche.
Hey, quand il a su que Mario coachait, là, c'est ça?
Oui, c'était. Puis même Patrick, à l'époque, il faut savoir que Serge Chavard était en train de négocier pour l'échanger aussi. Là.
Ouais.
Il était en grosse négociation avec Pierre Lacroix au Colorado et il négociait pour échanger Patrick à ce moment-là.
On a-tu une idée qu'est-ce qu'il y avait dans la potentielle transaction de Serge Chavard?
Semble-t-il qu'il y avait Fizet et Owen Nolan.
Ouais.
Ah, ouais.
C'est dans la biographie de Serge Chavard parce que quand il a été congédié, Pierre Lacroix l'a appelé pour justement discuter de la transaction et Serge Chavard lui aurait dit, écoute, à partir de maintenant, tu parleras à Régent Houle, c'est lui le nouveau directeur gérant.
Ouais. Ouais, ça, là, quand tu parles d'une... Tu sais, là, dans l'histoire, là, quand tu fais la ligne du temps, la chronologie du temps, la ligne du temps, là, si tu changes un événement dans la ligne du temps, ça change pour les années à venir. Si t'enlèves ça, le congédiement, par exemple, tu continues avec Serge Chavard et Jacques Demers, qu'est-ce qui arrive par la suite? Est-ce que Patrick est échangé ou non? Qu'est-ce qui arrive pour la reconstruction à venir du Canadien? Parce qu'il y en aurait eu une.
Puis Serge Chavard et Jacques Demers. Puis Serge Chavard, tu sais, c'est un gars, là, OK, moi, je le respecte énormément, je l'aime beaucoup. Moi, je l'appelle Monsieur Chavard parce que, tu sais, il est plus vieux que moi et puis ça a toujours été ça. Tu sais, quand tu sens que ton club est après virer le coin, là, pis tu sais, le Canadien avait eu un mauvais début de saison, parfait. Mais tu sais, comme coach, Jacques Demers, c'est tout ça, il a le feeling de son équipe, puis Serge Chavard avait le feeling de son équipe, comme de quoi, Alain, que on est après virer le coin. Tu sais, on va virer le coin, ça s'en vient tranquillement. Pis finalement, ils n'ont jamais eu la chance. Ronald Coré est allé très vite sur la gâchette, bing bang, rentre dedans, on échange tout le monde, on engage des gens qui, à l'époque, avait très peu d'expérience. Là, on s'entend, faut pas se cacher. Là, on se mettra pas la tête dans le sable. Là, Steve Schott avait jamais coaché. Yvan Cournoyer avait jamais coaché. Régent Houle avait jamais été DG. Mario Tremblay avait jamais coaché non plus. Il jouait longtemps. C'est des gars qui ont eu de belles carrières et tout ça. Mais en même temps, c'est la Ligue nationale de hockey. Là. Ils ont gagné leur première game.
Oui, tu as tellement raison, Gilbert, parce que je parlais du fameux match du samedi soir où le Canadien s'est fait battre par les Devils, puis que Jacques Demers avait donné congé le dimanche. Mais Jacques m'a toujours dit, je sentais, on avait joué un bon match ce soir-là. Je sentais qu'on était sur le point, la situation était sur le point de changer. Puis c'est pour ça que j'aurais donné congé aux joueurs, parce que, tu sais, l'ambiance est lourde dans ce temps-là. C'est quand on a perdu 4 ou 5 d'affilée, c'est pas drôle. Mais l'équipe avait joué un bon match Fait qu'il dit, on donne congé, on revient lundi, puis on recommence à travailler. Puis il sentait, t'as raison de le dire, il sentait que ça allait changer.
Ouais, exactement.
Et malheureusement, le cours de l'histoire a été changé à tout jamais.
Ben, vous en conter un autre sur, tu parlais de Steve Schott. Il y a un match, je ne sais plus contre quelle équipe, et il parle du Steve Schott réunit les joueurs.
Pour le power play. C'est très bien, celle-là, ouais. C'était contre Hartford, je sais pas trop, mais il parlait de...
C'est au courant. Il parlait d'un joueur à surveiller sur le power play des Whalers. Il y a un joueur du Canadien, il aime la main.
He's not there anymore. C'était Pat Verbeek. You gotta watch that Pat Verbeek on the power play, but he doesn't play there anymore.
Il a été tradé il y a trois semaines.
Aïe, aïe, aïe.
Hey, boy.
Ouais, ça, c'est peut-être pas sa meilleure. Merci, Alain. Toi, t'as été excellent, soit dit en passant. Toi, c'était ta meilleure chronique. J'espère que ça va être encore meilleur demain.
The Silver Fox. Demain. Salut, Alain.
C'est ça. Salut, boys.
Hey, avant de partir, là, tu sais, quand tu dis que nos chroniqueurs nous écoutent, désolé. Confirmé, c'était moi et Owen Nolan en retour de Patrick. Ça vient de qui, vous pensez?
Ah ouais, le bon
Stéphane nous a écrit. Quand on va y parler cette semaine, ouais, à Stéphane, il va falloir parler de ça. Là, comment est-ce qu'il a vécu ça? Là, parce qu'il y avait des rumeurs, là, puis après, par la suite, puis bon, ben...
Ouais, je sais pas, probablement plus mercredi, mais on devrait lâcher un petit coup de fil.
Stéphane, on t'appelle pour mercredi, OK?
Je te texte après le show, Stéphane. Après la pause, c'est un autre collaborateur qui débarque pour nous parler de la belle victoire des Jays. Ils vont forcer un match numéro 7 ce soir contre les Mariners de Seattle.
Ce soir!
Mark Griffin.